Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'émotion à Tomblaine en Meurthe-et-Moselle au lendemain du crash d'un avion qui a fait 11 morts. Aucun passager n'a survécu, un drame aux circonstances très floues. On sera sur place dans un instant. Plus de 1000 décès supplémentaires depuis mercredi dernier. Premier bilan de la canicule, loin d'être définitif. Et les Bleus qui sont arrivés dans le New Jersey à la veille de leur 16e de finale de Coupe du Monde face à la Suède. Cette nuit, le Canada s'est qualifié pour la suite de la compétition.
11 morts, bilan d'un crash d'avion hier près de Nancy.
L'accident s'est produit en fin de matinée du côté de Tomblaine en Meurthe-et-Moselle. Tous les passagers de l'appareil ont été tués. Un pilote, 5 moniteurs et 5 personnes qui effectuaient leur baptême de parachute sous les yeux de leur famille. Écoutez ce témoin, il a assisté à la scène.
J'ai vu l'avion qui montait en l'air comme ça. Quand on l'a vu monter, il avait vraiment le nez en l'air. Et d'un coup, plus de bruit. Et d'un coup, il est parti sur la droite. Du coup, je vois, il y a un truc qui se passe pas bien. Je l'ai pas vu tomber, j'ai juste entendu le bruit. Puis, le temps de faire le tour. Il y avait déjà un monsieur qui était sur place en train d'éteindre. Il m'a dit que, il arriverait pas à éteindre le feu avec le seul extincteur qu'il avait. Donc, j'étais en recherche un. On a essayé de, que l'avion prenne pas feu. Et puis, on s'est rendu compte de ce qui s'était passé, quoi. Et j'ai vu officiellement, tous les corps, sans vie par terre. On l'a vu tout de suite qu'ils étaient tous morts sur le coup, quoi.
Un drame et de nombreuses questions, de nombreuses zones d'ombre. On retrouve Maxime Cliérusa du service police-justice en direct de Tomblaine ce matin. On ne connaît pas à cette heure les causes du crash. Si la chute de l'appareil reste inexpliquée, Maxime, plusieurs pistes sont à l'étude.
Oui, s'agit-il d'une panne et notamment d'une panne moteur? Les témoins présents sur place hier racontaient un silence avant le crash de l'avion. L'appareil, un Pilatus, ne pouvait embarquer que 11 personnes. Il était donc rempli en totalité. Les passagers ont également pu se ranger d'un côté de l'appareil de sorte à causer un déséquilibre, ou bien le pilote a-t-il tout simplement fait un malaise? Voici les questions auxquelles vont devoir répondre les enquêteurs. Ils étaient 35 hier de la gendarmerie des transports aériens et ce jusque tard dans la nuit. L'objectif des enquêteurs hier a été de figer la scène de manière à ce que tout reste intact pour ensuite réaliser un certain nombre de prélèvements sur les débris de l'avion, tout d'abord sur les affaires des victimes, ensuite et notamment leur téléphone portable, voir si des photos ou vidéos prises avant le crash pourraient aiguiller les enquêteurs. Enfin, la boîte noire, ce type d'avion n'en possède pas forcément, mais cela pourrait être une aide précieuse si les enquêteurs en retrouvent une. Des enquêteurs déjà de retour ce matin sous la pluie ici à Tomblaine qui continuent d'analyser la carcasse de l'appareil toujours présente sur les lieux du drame.
Maxime Cliérusa du service police-justice en direct de Tomblaine ce matin pour RMC. Il est 7h03. Et enfin, la canicule touche à sa fin. Une accalmie sur le front des températures, même si elles resteront élevées. Ce lundi, 5 départements du Sud-Est sont toujours en vigilance orange après 11 jours d'un épisode qui restera dans les mémoires de par son ampleur, sa précocité et son impact sanitaire, avec des premiers chiffres loin d'être définitifs. Depuis mercredi dernier, Santé publique France a enregistré une surmortalité, environ 1000 décès de plus que la normale par rapport au mois précédent, des victimes souvent âgées et seules, Louise Salé.
Lundi dernier, comme tous les jours, Gabriel, 95 ans, s'est rendu sur la tombe de sa femme en Saône-et-Loire. Mais accablé par la chaleur, il s'est effondré dans l'allée du cimetière, raconte son frère Jean.
Quel que soit le temps, il allait au cimetière, quoi qu'on lui dise, en pleine canicule, à 13h15, on doit peu de choses près. Sa casquette était dans la voiture, donc il n'avait plus aucune précaution, donc il en est mort, évidemment.
Depuis vendredi à Dijon, le docteur Rémi Bonin, de SOS Médecins, a rédigé 4 certificats de décès pour des personnes âgées de plus de 75 ans.
Je suis allé chez une personne âgée qui était isolée à son domicile. Les filles, nous sommes allés pour constater le décès, mais c'est des choses qui auraient pu être évitables. On arrive dans des endroits vraiment étouffants. Le truc, c'est vraiment la chaleur dans l'appartement.
Une surmortalité également constatée à l'hôpital par le docteur Hélène Pizu aux urgences de Montauban.
C'était des décès évitables. 23 ans après la canicule historique de 2003, les choses n'ont pas tant changé que ça. Pour justement climatiser l'intégralité des EHPAD et également les services hospitaliers, ça n'est pas fini.
En 2003, la canicule avait causé près de 15 000 décès.
Et de fortes chaleurs qui pourraient être de retour dès la semaine prochaine. Scénario probable, nous dit Météo France, qui a levé l'alerte aux orages ce matin. Plus de 244 000 éclairs ont frappé le sol hier avec quelques dégâts matériels en Île-de-France. Notamment, des perturbations sont toujours à prévoir sur le RERC et plusieurs lignes du Transilien. Les travaux devraient durer plusieurs jours. Dans le Nord, c'est le trafic des TER qui sera perturbé ce lundi du côté de Valenciennes. Sur les rails, toujours sans lien avec les orages, cet incendie près des voies hier à Valence qui a provoqué d'importants retards sur la ligne sud. Est. Plusieurs TGV ont été bloqués avec plus de 4 heures de retard pour certains. Philippine Boulet était aux côtés de voyageurs lors de leur arrivée à Paris-Gare de Lyon.
Sac de randonnée sur le dos, Héloïse pose enfin le pied à Paris après plus de 7 heures de voyage et 4 heures de retard.
Oh bah sur le moment, c'est fatigant, on en a marre.
De longues heures d'attente à bord de son train, sans information ni collation.
Il passe toujours avec de quoi boire, de quoi manger, si jamais il y a du retard. Mais ironie du sort, ils les ont donné 20 minutes avant l'arrivée. Des petits gâteaux, une petite bouteille d'eau. Bon, c'est l'intention qui compte, hein, mais...
De retour d'un voyage dans les Alpes, ce couple de Parisiens est resté bloqué 3 heures à Chambéry.
La gare était brûlante. La billetterie était fermée. Il y avait énormément de monde assis par terre. C'était la débandade.
Philippe et Véronique, eux, rentrent d'un week-end à Avignon. Leur train a été arrêté 3 longues heures sur les voies.
C'est sûr que 3 heures de plus, ça fatigue un petit peu quand même.
Et aujourd'hui, pas le choix pour eux.
On travaille.
Bah avec quelques heures de sommeil en moins.
L'incident a également causé d'importants retards sur plusieurs trains en gare de Marseille-Saint-Charles hier soir.
La course contre la montre au Venezuela pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres après le double séisme de la semaine dernière qui a déjà fait 1450 morts. Près de 50 000 personnes sont portées disparues selon les Nations Unies. Le Canada décroche son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Vainqueur de l'Afrique du Sud 1-0 hier soir, les Canadiens affronteront au tour suivant le vainqueur du match entre les Pays-Bas et le Maroc la nuit prochaine, 3h du matin. Ce sera à vivre sur RMC. Avant ça, le Brésil affronte le Japon, 19h, suivi d'Allemagne-Paraguay. Le vainqueur de ce match nous intéresse puisqu'il affrontera en huitième de finale la France, on l'espère, ou la Suède, opposée demain soir à 23h, avec quelques changements à prévoir dans le 11 de départ, Jean-Louis Tour.
Oui, quand une équipe fonctionne bien comme la France depuis le début de la Coupe du Monde, les zones d'ombre sur la composition d'équipe sont rares. Didier Deschamps a les trois quarts de son 11 en tête, hormis peut-être deux postes situés sur le côté gauche. En défense, une alternance pourrait offrir une 60e titularisation à l'expérimenté Lucas Digne, au détriment de Théo Hernandez, parfois en difficulté, comme sur le pénalty concédé contre la Norvège. Un peu plus haut sur le terrain, l'hésitation concerne deux joueurs du PSG, Bradley Barcola et Désiré Doué. Si la logique d'alternance se poursuit, Barcola pourrait débuter cette rencontre, et sa vitesse contre la lourde défense suédoise constituerait un atout. Pour l'instant, et contrairement à certaines précédentes rencontres, Didier Deschamps n'a pas encore travaillé de mise en place tactique. Les doutes seront donc probablement levés tout à l'heure lors de l'entraînement de veille de match à 23h dans le New Jersey, où les Bleus sont arrivés il y a quelques heures.
Et on vous retrouvera, Jean-Louis Tour, au commentaire de ce match demain, 23h, match des 16e de finale de la Coupe du Monde France-Suède. Et puis Romain Grégoire portera le maillot tricolore sur la route du Tour. Le cycliste de 23 ans a remporté les championnats de France hier à la Tour du Pin en Isère. Un rêve pour le coureur de la Groupama FDJ United, déjà sacré 2 fois en junior.
C'est juste incroyable, c'est franchement une explosion de bonheur. C'est un titre que j'ai tellement voulu, que j'ai tellement rêvé, j'ai tout mis en place pour aller chercher. C'est un truc de malade, se dire que je vais pouvoir vivre ça sur le Tour de France. Je pense que c'est une chance énorme. J'ai envie de dire, on va essayer de profiter tous ensemble parce que c'est une victoire d'équipe, c'est juste fou.
Et le Tour de France, ça commence samedi sur RMC, départ de Barcelone, ville hôte de ce Tour de France, de grand départ.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h09 sur RMC. Et Thierry qui nous appelle au 32-16. Bonjour Thierry.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Thierry? Vous êtes gestionnaire d'un site d'e-commerce en Charente.
Ouais.
Vous en pouviez plus là de la canicule?
J'en peux plus. La canicule, ouais, j'en peux plus de dormir dehors. C'était marrant au début, mais...
Vous nous avez appelé la semaine dernière, vous vous êtes dit, bon, allez, au début, avec ma femme, on s'est dit, on va sortir la tente, on va dormir dehors, et là, vous n'en pouvez plus.
Non, c'est marrant, mais là, c'est trop long.
Ouais, c'est trop long. Mais la maison s'est pas rafraîchie?
Maintenant, voilà, le problème, il est là. Alors, il y avait des spécialistes, l'autre fois, qui expliquaient le phénomène, j'ai perdu le nom. Donc, on est monté à 30 dans la chambre, et malgré les ventilateurs, les fenêtres ouvertes, la température ne baisse pas.
C'est ça, ça reste emmagasiné dans les murs.
Il paraît qu'il faut des jours et des jours pour la sortir, donc du coup on continue à dormir dehors. Enfin, c'est l'enfer.
Non mais en fait vous dormez très très mal, vous vous réveillez, vous êtes fourbu, non?
Bah oui, en plus cette nuit il a fallu sortir. Enfin, c'est...
Oui.
Quand c'est des vacances, ça fait des souvenirs de vacances, mais là c'est pas des vacances et c'est compliqué. Quoi.
Ouais, là il faut retourner bosser le matin et en effet vous avez raison, les maisons restent chaudes. Je vais vous dire, c'est idiot, mais ce matin moi j'ai ouvert le placard, j'ai sorti un verre juste pour boire de l'eau, le verre était chaud.
Oui, mais c'est ça, mais dans ma chambre, il fait
trop. C'est possible, le verre était chaud, quoi.
C'était pas un placard, c'était le lave-vaisselle.
C'était le placard, Mathieu.
Cette nuit, il faisait, je crois qu'on est descendu à 18, et ma chambre, il fait 32. Alors qu'elle s'est toute ouverte depuis hier soir, donc vous voyez, ça sort pas. On a mis des ventilateurs, tout. Les vieilles maisons, c'est bien beau, mais comme on m'a dit, quand le chou est rentré.
C'est ça, ça met du temps à rentrer, donc au début on est content, et puis ensuite j'imagine qu'effectivement on met plus de temps à la sortir. Thierry, courage, j'espère que la nuit prochaine vous allez pouvoir rentrer dans votre lit, et n'hésitez pas surtout à nous appeler demain matin pour nous dire si vous avez pu réinvestir la maison. Merci Thierry, comme Thierry, vous n'hésitez pas à vous nous appeler au 32-16, il est 7h11 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et c'est au moins 1000 morts supplémentaires que l'on décompte la semaine dernière. Tout premier bilan de Santé publique France après la canicule, un chiffre qui sera forcément revu à la hausse. Bonjour Didier Birig. Vous êtes le secrétaire général du syndicat FO Santé. Bonjour. Vous êtes vous-même infirmier. Pour vous, la ministre de la Santé, elle doit présenter ses excuses. C'est votre parti pris dans un instant, vous nous le dites. 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Des funérariums saturés, des décès à l'hôpital, mais aussi beaucoup chez des personnes isolées. Un premier bilan fait état d'au moins 1000 décès supplémentaires la semaine dernière à cause de la canicule. Bonjour Didier Birig. Vous êtes le secrétaire général du syndicat FO Santé. Votre parti pris ce matin, c'est que la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, elle doit présenter ses excuses aux familles des victimes. Pourquoi est-ce qu'à vos yeux, le gouvernement est en partie responsable ?
Parce que cette situation était prévisible depuis très longtemps, hein, 2003, la première canicule, 2017, 2018, et que tous les prévisionnistes en météo nous l'avaient dit, comme quoi ces épisodes allaient revenir, et que on savait gouverner, c'est prévoir, hein, donc il fallait prévoir cette situation, comme quoi à un moment, eh ben, on allait avoir des canicules plus longues, et donc on savait pertinemment que les hôpitaux n'étaient pas prêts pour accueillir une nouvelle canicule. Et donc je pense que ce gouvernement se doit, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire comme quoi les pertes de chance et les décès font partie du risque financier. Alors quand on voit que depuis le début d'année, voilà, on nous a retiré.
Vous voulez dire que c'est quasiment un choix ? Ça veut dire que c'est quasiment, enfin, c'est-à-dire que c'est un choix. C'est-à-dire que c'est dans l'arbitrage, en quelque sorte, le choix de protéger ceux qui effectivement ont succombé à la canicule n'a pas été fait.
Alors moi, je vous dis que lorsque quelque part l'hôpital est en grande difficulté financière, qu'il est en déficit, qu'on lui retire encore 3,5 milliards, c'est-à-dire qu'on lui retire des moyens pour pouvoir investir de l'argent, pour pouvoir accueillir de nouveaux personnels, eh ben on fait le choix de le mettre en difficulté. Et donc à partir de ce moment-là, on sait que quand l'hôpital est en difficulté et qu'il y a soit une nouvelle pandémie, soit une crise de ce type-là, eh ben que l'hôpital va être
Qu'aurait-il fallu faire et qu'est-ce qui aurait sauvé, j'allais dire, c'est au moins 1000 décès supplémentaires?
Bah écoutez, je ne sais pas si on aurait pu les sauver tous les 1000. En tout cas, il est sûr qu'au niveau des urgences et dans les établissements publics de santé, avoir des services avec des climatisations pour pouvoir accueillir les malades dans de bonnes conditions aurait pu certainement éviter qu'on ait un certain nombre de décès dans nos structures, ça c'est certain. Après, je pense que il y a le fait que chaque individu réagit autrement à la chaleur, et donc c'est vrai que quand on arrive dans un grand âge, des fois il est difficile de passer au travers des mailles. Mais je pense qu'on aurait pu en éviter un certain nombre. Et je l'ai dit, les décisions qu'a pris la ministre là sur les dernières semaines, à part les derniers jours, à part de lancer le plan blanc, hein, et de passer donc le dispositif Orsan au niveau 3, tout ce qu'il pouvait faire ne changeait absolument rien. C'était en amont qu'il fallait bouger, et c'est là où rien n'a été fait, bien au contraire. Retirer des moyens, encore 1,5 milliard début d'année, en nous disant, après une ponction de 3,5, il fallait encore nous enlever 1,5 milliard. Donc vous faites le total, ça fait 5 milliards au moins pour les hôpitaux pour cette année, et puis, grand seigneur, là, on vient nous dire, mais ne vous inquiétez pas, on vous donne 100 millions pour de la clim.
Voilà, 100 millions pour la clim, c'est ce qui a été annoncé hier. Vous avez l'air de dire que c'est dérisoire.
Ben oui, au regard des 5 milliards qui nous sont retirés sur les budgets, 100 millions, on nous les donne pas. Ça veut dire qu'on nous retirera 100 millions de moins à l'enveloppe financière qui devrait faire tourner les hôpitaux sur les besoins réels.
Ça suffit 100 millions pour mettre la clim dans les hôpitaux? On a parlé la semaine dernière d'un certain nombre de chambres d'hôpitaux, hein, où les gens sont censés être soignés, protégés, où ils sont déjà en souffrance, et des chambres où à l'intérieur il faisait 36 à 40 degrés.
Oui, moi je pense que 100 millions c'est insuffisant. Vous regardez en psychiatrie, je vis pas très loin d'un hôpital psychiatrique où il y a des unités pour malades difficiles, c'est-à-dire des malades qui sont la nuit enfermés dans leur chambre, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres. Il reste encore un certain nombre d'unités qui ne sont pas climatisées, où les malades, je vous assure, la nuit sont couchés nus à même le sol pour trouver de la fraîcheur. Climatiser ces services, c'est pour certains impossible parce qu'ils sont vétustes, donc il faut soit les fermer, soit les reconstruire. Je crois que l'enveloppe de 100 millions est très largement insuffisante au regard de ce qu'on a besoin. Mais je vous le rappelle, cette enveloppe de 100 millions, c'est de l'argent qu'on va nous retirer en moins. Donc c'est pas de l'argent qu'on nous donne, c'est ce qu'on va pas nous enlever. le discours est pas tout à fait le même. Je crois que la ministre, elle a essayé de faire comme tous les ministres en situation compliquée comme aujourd'hui, hein. Elle joue le pompier et elle essaye par tous les moyens de trouver de faire de la communication. C'est ce qu'elle fait. Et d'ailleurs, elle a pas été très, très bonne. Nous, on l'a rencontrée il y a 3 jours. On lui a demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et bien, on voit bien qu'ils savent pas trop puisqu'ils nous demandaient à nous, organisation syndicale, des solutions, si on pouvait pas les aider à trouver des solutions.
Ça veut dire Didier Bric que oui. Au fond là c'était des solutions à la petite semaine si je vous entends bien. Géraldine Demory nous disait tout à l'heure que la météo de la semaine prochaine, c'est-à-dire dans 8 jours, annonçait déjà un retour de forte chaleur. Ça sera pareil, on n'est pas prêt.
Non, on sera pas plus prêt. Je pense qu'à certains endroits on aura peut-être récupéré des clims mobiles pour pouvoir rafraîchir, mais je sais pas si vous avez tenté, pour vous, d'essayer d'en avoir une, là, ces derniers jours.
C'est en rupture. Je recevais le patron d'Intermarché cette semaine sur RMC, oui. C'est en rupture.
Mais bien sûr, et puis ce qu'il y a, c'est que dans les établissements, nous avons des procédures pour pouvoir faire des achats. Quand un établissement doit acheter pour des sommes importantes qui dépassent des millions d'euros, il est obligé de passer par des marchés publics, il est obligé de faire ça sur des semaines et des mois.
Donc ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, c'est sûr.
Bien sûr, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en colère, parce que nous, les organisations syndicales, toutes, et Force ouvrière en première, on n'arrête pas de dénoncer la situation catastrophique de l'hôpital depuis des mois. Vous savez, je pense que ils espèrent une chose, c'est que mardi, la température est baissée, et puis qu'il y ait
qu'on oublie, qu'on passe à autre chose. Mais effectivement, voilà, on sait que ça va revenir, c'est important. Et d'ailleurs, dirait Didier Bric, un préavis de grève a été déposé pour ce jeudi par vous-même et d'autres. Merci Didier Bric, donc secrétaire général du syndicat FO Santé infirmier vous-même. Et notez qu'à 8h30, le directeur général de la sécurité civile, Julien Marion, viendra faire un premier bilan donc de la situation de la canicule. C'est l'heure de remonter le temps, 7h20. Arthur Chevalier est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, un colloque est organisé ce soir à l'Assemblée nationale sur les ovnis.
Mais les ovnis existent-ils? Eh bien, en tout cas, Apolline, ce qui est sûr, c'est que plusieurs phénomènes restent totalement inexpliqués par la science aujourd'hui.
Et puis, dans 5 minutes, il y a Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier, notre historien à nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Cet après-midi, le premier colloque sur les objets volants non identifiés aura lieu au Parlement. Une rencontre qui va réunir des militaires, des scientifiques, des politiques. C'est très sérieux.
Et oui, tout ça a été organisé par un député LFI et un député Horizon. D'après Arnaud Saint-Martin, donc un des députés organisateurs, le but de ce colloque sur les ovnis, c'est de sortir, je cite, du sensationnalisme, des fantasmes, pour nous approprier de manière rationnelle une question qui suscite un intérêt important. Et effectivement, c'est une question qu'on prend déjà au sérieux, puisqu'il existe un groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Mais non.
Ça s'appelle le GEPAN et c'est rattaché au très sérieux Centre National d'Études Spatiales.
Est-ce que les ovnis, c'est un sujet qui suscite vraiment de l'intérêt en France?
Alors évidemment, si on se compare aux États-Unis, beaucoup moins, puisque là-bas, les extraterrestres, c'est un débat de société permanent. Mais il y a quand même plusieurs phénomènes inexpliqués qui ont passionné la France. Et un des tout premiers, ça s'est passé le 17 février 1956. Nous sommes en pleine nuit dans la tour de contrôle de l'aéroport d'Orly. A priori, tout est normal, rien à signaler. Sauf que vers 3h du matin, un objet non identifié apparaît sur les radars des contrôleurs aériens. L'engin va beaucoup plus vite qu'un avion. Il est 2 fois plus gros. C'est la stupeur et la panique.
Une enquête très sérieuse va être menée.
Oui, et plusieurs pilotes d'avions vont confirmer les faits. Eux aussi, depuis leur cockpit, ont vu un objet volant qui irradiait de lumière. L'engin a bel et bien existé, ça ne fait aucun doute. Mais personne ne sera jamais capable de déterminer de quoi il s'agissait. Cet ovni, Apolline, il va même gagner un surnom. On l'appelle le fantôme d'Orly.
Et puis, il y a une histoire encore plus troublante.
Ah, une histoire très très troublante, qui se passe en 1965 à Valensole, dans les Alpes de Haute-Provence. Le 1er juillet, à l'aube, un agriculteur qui s'appelle Maurice Mas tombe nez à nez dans son champ avec un énorme vaisseau qui avait la forme d'un ballon de rugby. L'agriculteur s'approche doucement et là, deux créatures avec des yeux globuleux de petite taille, environ 1 mètre de haut, s'approchent. Il pointe vers lui un objet qui ressemble à une arme, une sorte de fusil. Alors on ne sait pas trop ce que c'était, mais en tout cas, l'agriculteur dira qu'après ça, il a été immobilisé, comme paralysé, et qu'il a vu le vaisseau s'envoler.
Est-ce que son témoignage va être pris au sérieux ?
Alors, au début, moyennement, et puis après, oui, puisque des scientifiques vont venir vérifier l'état du champ de Maurice Mass. Et effectivement, dans la Terre, ils constatent que les traces d'un engin correspondent exactement à ce qu'il avait décrit. Plus tard, le GEPAN va confirmer cette version des faits en classant cette affaire comme un cas officiellement inexpliqué. Valensole reste la référence française en matière de rencontre du troisième type.
Incroyable. Merci beaucoup, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Et c'est l'heure d'Arnaud Demange à 7h25.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, mon invité, ce sera le patron de la sécurité civile, Julien Marion.
C'est un spécialiste de la gestion de crises, de canicules, de feux de forêt, de tremblements de terre, d'ados qui refusent de poser son téléphone à table, oui. De votre femme qui tombe sur un SMS compromettant. Il sait gérer tout type de crise, Julien Marion. C'est un peu le Bruce Willis français. En cas de catastrophe, c'est lui qu'on appelle.
C'est l'équipe, c'est Bruce Willis. Alors, un problème de canicule ? Eh ben bougez pas, je vais vous larguer une bombe super atomique dans le soleil, il va plus nous emmerder. Allez, ça y est, c'est fait. Je rentre, mission accomplie les gars, il n'y a plus de soleil, regardez, il n'y en a plus.
Bah non monsieur Willis, c'est juste que vous avez atterri à Cherbourg, il n'y a jamais de soleil.
Yippie-caille, pauvre con.
Alors, il est directeur de la sécurité civile et c'est un métier où tu dois avoir le sang froid.
Oui, tout à fait.
Même s'il fait très très chaud,
voilà.
Tu dois savoir tenir tes nerfs, quoi. Moi, je sais que je serais trop immature pour ce job-là. Je jouerais avec la sirène des pompiers et tout, je serais nul. Alors, quelle leçon à tirer de cet épisode caniculaire ? 1. Le pote qui a un loft avec une grande baie vitrée, il ferme sa gueule, il se la joue un peu moins. Et le pote avec le loft, on peut s'en passer, mais ne vous fâchez pas avec celui qui a une piscine. Tenez vos amitiés. Alors, samedi soir, il y a eu des orages. Les gens étaient heureux, j'ai trouvé ça fou. Ils levaient les bras en l'air en disant « Ah ! De la pluie ! De la pluie !» Ils étaient avec leur Tahiti douche dehors, comme dans la pub, tu sais. Tahiti ! Se savonner, comme dans les années 90. J'avais l'impression d'assister au début d'une nouvelle religion. C'était super.
C'est une pub de vieux.
Et alors, c'est qu'on se savonne pas.
C'est les métros, oui, ça me faisait rêver grave.
On se savonne pas que dans les années 90. Chacun aura compris ce que je voulais dire. Alors, face à la répétition des épisodes caniculaires, le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers, il s'appelle Éric Brocardi, il a déclaré « On ne peut pas mettre un pompier à chaque porte ». Et c'est vrai que c'est mieux pour eux. C'est mieux parce que ça pourrait être très dangereux. Vous imaginez le pauvre jeune pompier qui sonne à la porte d'une cougar. « Bonjour madame, ça va, vous n'avez pas trop chaud ?»«
Oh si, beau pompier, j'ai chaud, j'ai très chaud !»«
Eh ben, il faut vous hydrater et prendre des douches fraîches, madame. »«
Mademoiselle !»« Mademoiselle Chevrillon !» Je suis en flamme. Qu'attends-tu, soldat du feu ? Sors ta lance et éteins-moi.
Ouais, je vais vous laisser, madame.
Oh, restez, je m'évanouis. Il me faut du bouche à bouche.
Alors, courage aux pompiers et rendez-vous avec Julien Marion à
8h30. Et on embrasse Edwige. C'était donc Arnaud Demange et on vous retrouve à 8h15. Il est 7h28. À tout de suite pour la météo et le journal. Attention, Géraldine nous le dira, ça commence à être derrière nous, mais ça pourrait revenir. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Rachel Sadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Rafale de vent, déluge de pluie et grêlons de la taille d'une balle de golf. Après la canicule, les orages s'abattent notamment sur le Puy-de-Dôme, vous l'entendrez. Jamais un crash d'avion de loisir n'avait fait autant de morts en France. 11 victimes, l'enquête se poursuit à Tomblaine, près de Nancy. C'est une information RMC, le dispositif voisin vigilant enregistre plus 14% d'inscrits cette année. Un succès inédit à l'approche des grandes vacances.
Près de 250 000 éclairs ont traversé le ciel du pays hier.
Après la canicule, place aux orages et ils ont déjà frappé le Puy-de-Dôme hier soir. La commune de Combronde notamment a connu un épisode bref mais très intense qui a pris de court les habitants comme Patrice.
Ça a tout de suite grêlé en fait. Ça a quasiment pas pu, ça a tout de suite grêlé et ça s'est pas arrêté pendant 10 minutes. Quoi. Et ce qui est tombé semblait un petit peu moins gros que des balles de golf quoi. Et on est sorti pour voir les dégâts. Les voitures ont quand même pas mal souffert, même si on les avait protégées. Toute la végétation, donc voilà, tout est haché. Mais pour l'instant, au moins, les Velux ont résisté. Après la toiture, il faudra faire appel à un professionnel. Ici, la commune de Combronde, les alentours, de ce que je sais, il y a des maisons qui sont sévèrement touchées. Quoi. Et effectivement, c'est assez impressionnant. Quoi. C'est de plus en plus souvent, mais l'intensité, jamais vue. À ce point-là, rarement. Quoi.
La canicule et ses conséquences. Santé publique France comptabilise environ 1 000 décès supplémentaires par rapport au mois précédent. Un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir et dont il sera notamment question lors du comité interministériel de crise organisé aujourd'hui en fin d'après-midi autour de Sébastien Lecornu. Chez RMC, 7h32, 11 morts, aucun survivant. Et cette question qui demeure ce matin, comment un avion de loisir a-t-il pu se cracher en plein décollage? Eh bien, l'enquête se poursuit à Tomblaine, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, où s'est produit donc hier l'accident d'aviation légère le plus meurtrier de France. 5 personnes venues faire un baptême de parachutisme, 5 moniteurs et le pilote de l'appareil se sont crachés en pleine zone résidentielle, sous les yeux de certains de leurs proches et laissant toute une commune sous le choc, Lucas Laubert.
En rentrant du travail hier midi, Mario se rend compte que quelque chose ne va pas.
J'arrive chez moi et je vois la police, les pompiers et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est sa femme chez lui, visiblement choquée, qui lui raconte ce qu'elle vient de voir.
Elle parlait avec ma fille, ils ont vu cet avion passer très bas et il y avait un bruit bizarre. Et puis après, elle a entendu, boum, un grand bruit.
L'avion de tourisme s'est écrasé à seulement 200 mètres de chez eux. Aucun survivant à bord. Madeleine voisine également, les yeux dans le vide, ne sait que dire.
C'est terrible, c'est terrible.
Choquée, mais consciente aussi d'avoir évité le pire.
Ça aurait pu être chez nous. Les amis, les copines, les familles, appelez.
Tout le monde s'inquiétait pour vous aussi?
Ah oui, bah oui, hein, tout le monde.
Parmi les victimes de l'accident, 2 infirmiers à bord pour un baptême de parachutisme. Tristesse profonde pour Thierry Péché, le président du conseil départemental de l'ordre infirmier.
C'est une famille, les infirmiers. Hein. Et là, que des collègues décèdent comme ça, alors qu'ils souhaitent faire son parachute, c'est affreux. C'est dramatique pour tout le monde. Et si on peut accompagner tout le monde, je vais en le faire.
Proche des victimes. Mes témoins de l'accident, une cinquantaine de personnes au total ont été accueillies au sein d'une cellule psychologique.
Le reportage de Lucas Laubert, envoyé spécial d'RMC en Meurthe-et-Moselle. C'est une information qu'RMC vous révèle ce matin. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au dispositif Voisins Vigilants, plus 14% sur un an. Et le but, Constance Bostoen, c'est donc de permettre aux riverains de signaler une situation suspecte.
Oui, ce dispositif, c'est une application disponible gratuitement sur téléphone qui permet aux habitants, d'une part, de signaler des comportements suspects dont ils sont témoins. D'autre part, aux communes d'informer leurs administrés en leur donnant quelques bons conseils, par exemple sur les cambriolages l'été, ce qui explique un phénomène d'adhésion en hausse en ce moment, d'autant que les résultats de cette application sont concrets, selon Frédéric Delanouvelle, directeur général adjoint de Voisins Vigilants.
On a fait un sondage avec l'IFOP en 2023 qui montre que 84% des maires qui ont adopté le dispositif constatent une baisse du nombre de cambriolages. Et 89% constatent une baisse du sentiment d'insécurité de leurs administrés.
C'est un dispositif qui a été créé il y a 10 ans. Il est bien accueilli notamment par la police municipale au niveau local. Police municipale qui a accès à l'application. Attention toutefois aux dérives potentielles. Le président de l'Association des policiers municipaux de France, Thierry Colomard, rappelle qu'il ne faut en aucun cas se faire justice soi-même. Il alerte, je le cite, sur la crainte que des milices privées se créent, même si à ce jour, aucune remontée en ce sens n'a été faite aux créateurs de l'application.
Constance Bostoen du service police-justice de RMC. Les États-Unis.
RMC. Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Le Canada, premier qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Ils ont battu l'Afrique du Sud 1-0 et les Bleus essaieront de les imiter demain soir, 16e de finale contre la Suède. En attendant, 3 matchs au programme aujourd'hui. Brésil-Japon à 19h, Allemagne-Paraguay à 22h30 et le choc entre les Pays-Bas et le Maroc, ce sera la nuit prochaine à 3h du matin. Lui est de retour dans le bassin des championnats de France de natation. Léon Marchand à Saint-Étienne ce matin, il fera le 200 mètres brasse. La star de la natation est en grande forme, magistrale sur sa première course, c'était samedi. Julien Richard, il a encore mis des étoiles dans les yeux de ses fans.
La compétition est terminée depuis bien longtemps, mais ils sont plusieurs dizaines dans les tribunes à le guetter, l'attendre. Lola et sa sœur Zoé, t-shirt Team Léon, fait maison et pancarte à la main.
Léon, nos bulletins sont bons, notre récompense, une photo avec toi.
Fan de Léon Marchand.
Bah parce qu'il nage bien et puis ça, c'est un exemple.
Le quadruple champion olympique sort de l'eau, s'approche.
Ouais, super, merci Léon.
Et signe tout ce qui lui passe sous la main.
On peut faire une photo, Léon?
C'était trop bien, enfin, de le voir aussi frais, enfin, c'était énorme.
Bah, c'est le meilleur nageur du monde.
Impressionnant comme il va vite et tout.
Donc c'est vraiment un exemple à suivre.
Vraiment, ça fait très plaisir aux enfants. Merci Léon. Merci.
Un champion ça.
700 jours après les Jeux de Paris, il apprend toujours à faire avec cette notoriété.
C'est jamais simple, je fais ce que je peux. Je pense que je le gère beaucoup mieux qu'il y a 2 ans. Forcément, j'ai envie de donner, de partager. Mais j'ai aussi envie de nager vite et de ne pas perdre trop d'énergie. Donc ça va être un équilibre. Je vais donner ce que je peux, je vais essayer de partager au mieux. Et en même temps, je vais essayer de me concentrer sur ce que je fais dans l'eau.
Et avec l'émotion qui fait parfois se mélanger un peu les mots.
Merci Léon Marchand beaucoup.
Le public stéphanois n'a qu'une chose à dire à la star des bassins.
Julien Richard au championnat de France de natation à Saint-Etienne pour RMC.
C'était le journal de Rachel Sadodine. Il est 7h37. Tiens, le quintet, Rachel, pardon, j'allais vous le zapper. Mais c'est sur l'hippodrome de Clairefontaine à 18h30.
Oui, et le pronostic de Dimitri Blanc-Loy de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le 10 Hamilton Air et son outsider, le 2 Marie Shelley.
Et il y a le quintet pour jouer et gagner. Et puis il y a la prime de match. N'oubliez pas, c'est le moment de jouer. C'est le moment de jouer pour gagner votre nouvelle prime de match. Le montant est colossal. Écoutez bien, il y avait 30 000 euros au départ. On a rajouté 500 euros à chaque but marqué. On en est à 77 500 euros. 77 500 euros. Retenez bien ce montant parce qu'à tout moment, on peut vous appeler. Et si vous connaissez le montant de la prime de match, elle est pour vous, 77 500. Pour ça, il faut vous inscrire. Vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Tirage au sort aujourd'hui avant 20h. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Et on part au 32-16, Aurélien qui est avec nous depuis la Vendée. Vous nous appelez de Saint-Martin-des-Tilleuls. Bonjour Aurélien.
Oui, bonjour.
Ça se rafraîchit ?
Ça se rafraîchit beaucoup là dans le Don. Bah, déjà 15 degrés le matin, donc c'est beaucoup mieux que ce qu'on a connu la semaine dernière où il y avait le Hellfest par exemple. Je pense à Mathieu, où on était plutôt
Mathieu,
une quarantaine de degrés. Où on a été une quarantaine de degrés, donc ce matin dans les maisons c'est descendu à 23 degrés.
Ah, 23 degrés dans la maison.
Au lieu de 31 la semaine dernière.
Donc vous arrivez à rafraîchir à peu près l'intérieur de la maison, parce que vous avez entendu des témoignages ce matin de ceux qui nous disaient on a beau ouvrir les fenêtres, on a énormément de mal à rafraîchir l'intérieur.
Non, non, là c'est vrai que ce matin c'était un bonheur d'avoir moins de 23 dans la maison.
Et ça fait du bien du coup de se lever tôt. Pour une fois, on est content.
Ouais. Exactement, ça fait du bien d'avoir de l'air dans la maison.
Merci Aurélien pour votre témoignage ce matin. C'était donc le point météo depuis la Vendée. Il est 7h39 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
L'accident d'aviation légère le plus meurtrier de l'histoire de France. 11 personnes ont perdu la vie hier dans la région de Nancy. Tous participaient à un baptême de saut en parachute. Bonjour Jean Serrin. Vous êtes le spécialiste de l'aéronautique. On vous connaît bien sur RMC, sur BFM TV. Vous êtes ancien commandant de bord. Comment expliquer ce crash? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous nous expliquerez le scénario, ce que l'on a vu, ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas. Vous nous le dites dans un instant. On va aussi appeler la présidente de la Fédération des pros de parachutisme. Ils sont en deuil. Elle connaissait plusieurs des victimes. On vous explique tout ça dans un instant. 7h39 sur RMC.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Un dimanche de saut en parachute qui s'est transformé en drame. 11 morts dans un tragique accident d'avion près de Nancy. 5 instructeurs, 5 élèves, le pilote de l'avion. Ils sont tous décédés. Jean Serrin sera avec nous dans un instant, consultant aéronautique pour RMC et BFM TV. Ancien commandant de bord, il va nous expliquer ce qu'il a bien pu se passer. Mais avant cela, je voudrais qu'on donne la parole à Tiffany Blom. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fédération des exploitants professionnels du parachutisme. Ce qui devait être un dimanche classique, une sortie, parfois familiale, parfois amicale, aller faire son baptême de saut en parachute, ça s'est transformé en drame absolu. Vous connaissiez l'un des instructeurs décédés, c'est toute une communauté qui est endeuillée.
Tout à fait, je confirme. Des journées comme ça peut faire partie du métier, mais comme on ne souhaite pas en vivre, je confirme.
Vous dites que ça fait partie du métier, ça veut dire que quand on fait ce métier-là, on sait qu'on prend des risques ?
Absolument, tout à fait. Des risques qui sont encadrés, qui sont mesurés, sur lesquels on a tout un tas de protocoles et de procédures. Et heureusement, ce type d'accident est d'une extrême rareté. Ça arrive. Et on est tous profondément touchés de ce qui se passe aujourd'hui.
Je vous imagine évidemment très émue. Je le disais, vous connaissiez l'un des instructeurs décédés. C'était 5 instructeurs, c'était un pilote. Ils avaient l'habitude, ils faisaient ça tous les jours. Enfin, je veux dire, c'était pour eux la routine.
Tout à fait, absolument.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui avaient prévu peut-être de faire un baptême en parachutisme, mais comme vous pouvez l'imaginer, qui sont inquiets, qui hésitent?
Bien sûr, je leur dis qu'ils peuvent continuer à y aller en toute sécurité parce que ça reste un accident d'avion et non un accident de parachutisme. Donc dans l'aéronautique, effectivement, faut laisser l'enquête au BEA faire la lumière sur ce qu'il a pu se passer. Mais ça reste un accident, heureusement isolé, d'une extrême rareté. Dans notre métier aujourd'hui, c'est encadré. Il y a tout un tas de procédures qui existent et qui font que, voilà, depuis des années, depuis 88, il n'y a pas d'accident, de ce type-là. Donc, je dis que la vie continue et que la profession reste pour autant extrêmement encadrée et sécurisée.
Et très très soudé là, on le sent bien évidemment et on entend votre émotion. Tiffany Blum, merci. Jean Serra est dans ce studio, bonjour. Vous êtes le consultant aéronautique d'RMC et de BFM TV. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce crash?
Alors pour l'instant, vraiment l'information la plus claire que l'on a eue hier en fin d'après-midi, c'est le témoignage de cette personne qui était avec son enfant devant chez lui, juste à côté de l'endroit où s'est crashé l'avion. Il a bien expliqué que il a entendu l'avion qui avait décollé, il entendait le bruit du moteur qui s'approchait de sa maison, et d'un seul coup, plus de bruit de moteur, et quelques secondes après, le bruit du crash. Donc, on en a tiré la conclusion que après le décollage, il y a eu une panne moteur. Ils étaient à peine à une trentaine de mètres, peut-être 40 mètres de hauteur par rapport au sol. Et je vous rappelle que, en face de la piste, il n'y a que des maisons. À droite, il y a un énorme centre commercial. Il n'y a que des maisons. Est-ce qu'il a essayé de tourner à gauche pour aller chercher un champ qui se trouve sur le côté gauche de la piste? Toujours est-il que quand il est parti à gauche, visiblement, il a décroché et malheureusement, ils sont tous morts.
C'est rarissime, effectivement. D'abord, est-ce qu'on peut parler de cet avion? Il s'appelle un Pilatus PC6B2H4. C'est un tout petit avion, hein?
Oui, c'est un avion qui est homologué pour transporter jusqu'à 10 passagers, plus un pilote, ça fait 11 personnes. C'est un avion qui est connu depuis des années et des années, des dizaines d'années, qui est énormément utilisé par le monde des parachutistes, parce que justement, comme on peut le voir sur certaines photos, c'est un avion, il a d'abord les ailes hautes, c'est-à-dire au-dessus du fuselage et non pas en dessous. Donc les ailes sont hautes et ensuite sur le côté, il a une porte qui s'ouvre en glissant vers l'arrière, ce qui permet aux parachutistes de pouvoir sauter sans aucun problème. C'est un avion qui est connu, qui est simple.
Il s'agissait de parachutistes, vous le disiez. On s'est donc tout de suite demandé aussi pourquoi ils n'avaient pas sauté, en quelque sorte, mais ils étaient trop bas. L'avion était très bas. Hein.
Tout à fait. Entre le moment où il décolle, le moment où il se crash, l'enquête nous le dira, mais peut-être 40 secondes, 45
secondes. Ah oui, donc c'est immédiatement après le décollage.
C'est immédiatement après le décollage. Il arrivait à peine à 30-40 mètres de hauteur. Autant dire que le temps de décoller, d'arriver à 30-40 mètres, il lui a fallu à peu près une vingtaine de secondes. Et ensuite, le crash, 20 secondes après, au total, une quarantaine de secondes, il n'avait aucune possibilité d'agir.
Jean Serra, on le sait, il n'y a pas de boîte noire sur ce type de tout petits avions. Donc il faudra une enquête, mais on n'aura pas, en quelque sorte, ce que d'habitude, la mémoire de cet avion, il ne parlera pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que le moteur, une avarie, une pièce, est-ce que le pilote a pu tout simplement lâcher? Qu'est-ce qui a pu se passer? Quels sont les scénarios possibles?
Pour moi, à ce stade de ce que l'on sait, le moteur s'est arrêté. Est-ce qu'il s'agit d'un problème moteur? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de carburant? C'est-à-dire le carburant d'un seul coup qui n'arrive plus au moteur, donc le moteur s'arrête. Ce qui expliquerait que malgré le crash, il n'a pas pris feu. Ça pourrait être une explication. Là-dessus, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? On va sur place dès hier, tous les spécialistes de l'enquête aéronautique ont commencé par photographier tout au sol pour repérer chaque morceau centimètre par centimètre et de manière à voir comment déjà l'avion a heurté le sol. Est-ce que, comme on a entendu à un moment donné une personne qui a dit l'avion est descendu en piqué, d'autres disent non, il est embarqué sur le côté gauche et il était en descente. Tout cela va pouvoir nous l'expliquer et nous amener des solutions. Ensuite, bien sûr, l'enquête, elle va regarder tous les depuis le suivi technique de l'avion. Est-ce que tout avait été fait convenablement? Est-ce que le plein carburant, tout ça, avait été fait normalement? Toutes ces choses-là vont nous amener vers d'un probable résultat.
Et l'enquête ne fait donc que commencer. Merci beaucoup Jean Serrin, consultant aéronautique pour RMC et BFM TV. Vous êtes ancien commandant de bord. Il est 7h49 sur RMC et dans un instant, c'est la voix de droite. C'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Le mur de la dette inquiète de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce mur?
Alors d'un côté, l'effort, les économies, mais de l'autre aussi, la récompense. Que peut-être la récompense, vous me demandez? Pourquoi pas la suppression de l'impôt sur le revenu?
Ah, la suppression de l'impôt sur le revenu.
Clair et net.
Allez, vous nous le dites dans un instant, 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, Louis Sarkozy nous dira qu'il faut supprimer l'impôt sur le revenu. Mais d'abord le bonus, Mathieu Farrell-Williams, en Essonne.
Les habitants de la cité de la Grande Borne ont dû se frotter les yeux, se pincer. Mais oui, le chanteur et producteur américain, par ailleurs styliste chez Vuitton, Farrell-Williams, a bien participé au tournage d'un clip à Grigny la semaine dernière. Un titre de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, où Farrell apparaît, ainsi que le rappeur Quavo. Le réalisateur cherchait un lieu authentique, dit-il, Paul Hunter, hein, qui l'on doit des clips pour Snoop Dogg, Marilyn Manson, Whitney Houston ou encore Lenny Kravitz. Après plusieurs visites, il a eu un coup de cœur pour ce quartier de Grigny, c'est ce que dit le maire communiste de la ville. En attendant le clip, la chanson, ça donne ça. Un tournage organisé en 5 jours, le réalisateur tenait à ce que des figurants soient de Grigny, les associations, le club de foot ou encore les danseurs locaux. Tout s'est monté en 5 jours seulement.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
C'est lundi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Nous sommes assis sur un baril de poudre. Voilà ce que dit le ministre des Comptes publics à propos des finances publiques. Il annonce déjà des nouvelles économies. La Cour des comptes assurait la semaine dernière que tous les signaux sont au rouge. Pour vous, il faut agir vite.
Mais le problème avec le socialisme, Apolline, c'est qu'on finit toujours par manquer de l'argent des autres. C'est Margaret Thatcher qui dit ça. En 76, 50 ans plus tard, l'argent des autres, je veux dire l'argent des Français, commence à manquer. La dette publique va dépasser 320 milliards d'euros cette année, c'est 118% du PIB. Le service de la dette à lui seul, c'est-à-dire l'argent qu'on paye aux banques pour avoir le droit de continuer à emprunter, va coûter 77 milliards en 2026. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Nous ne sommes pas en danger de faillite, Apolline, nous sommes complètement en faillite.
Alors Louis Sarkozy, président de la République, ça donnerait quoi niveau économie?
Ah, écoutez, déjà merci pour la promotion, j'accepte immédiatement.
Bien sûr, je le vois bien, mais enfin faut se faire élire, mon bon.
Même si voilà. Je ne suis pas rasé. Premier décret, première minute du premier jour, je divise par deux le maquis des plus de 1200 comités, commissions et hauts conseils inutiles et illisibles que compte notre magnifique pays. Le Conseil économique, social et environnemental coûte, chers amis, 34 millions d'euros à produire des rapports que personne ne lit. On a un haut commissaire au plan inventé uniquement pour caser François Bayrou. Tout ça, c'est fini. C'est 5 à 7 milliards d'économies par an. Et c'est la première semaine. Deuxièmement, nous avons 41 ministres.
41,
vous avez 41. Ce matin, à 6h30 d'ailleurs. Il y a de meilleurs réveils. L'Allemagne en a 15. Je passe à 20 portefeuilles. 300 à 500 millions d'économies. Et un gouvernement, enfin, lisible. Troisièmement, 300 000 postes en moins dans la fonction publique administrative sur 5 ans par la règle simple du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Quatrièmement, privatisation de tout ce que l'État n'a aucune raison d'opérer. France Télévisions, Radio France, La Poste, SNCF Voyageurs et ouverture du capital sur EDF, Engie, Orange, ADP. 80 à 100 milliards de recettes pour le budget. Et cinquièmement, pour les symboles. Les symboles sont très importants, qui comptent autant d'ailleurs que les chiffres. 577 députés ramenés à 400. 348 sénateurs à 250. Moins de politique, mais bien mieux payés. Ça prend quelques semaines. Et accessoirement, ça sauve la France.
Vous parlez beaucoup d'économie. Autre solution dans ces cas-là pour un gouvernement, augmenter les impôts?
Il faut faire exactement, il faut faire totalement, il faut faire précisément l'inverse.
L'inverse?
C'est-à-dire un choc d'économie, je viens de le dire, mais un choc fiscal en retour. Concrètement, c'est supprimer l'impôt sur le revenu.
Supprimer l'impôt sur le revenu?
Oui, alors 95 milliards d'euros rendus en français en un trait de plume. Rendez-vous compte de la puissance d'une telle mesure. Et tenez-vous bien. C'est mathématiquement possible, c'est parfaitement possible. Si vous économisez 200 milliards de dépenses publiques sur le quinquennat, ce que je propose, vous pouvez baisser les impôts de 100 milliards et désendetter en même temps. La suppression de l'impôt sur le revenu, c'est le symbole. C'est dire aux Français, vous n'êtes plus les vaches à lait de l'État, vous redevenez les patrons de votre propre travail.
C'est complètement démagogique.
Non.
Non.
Absolument pas. Le démagogue, c'est pas moi. C'est celui qui explique aux Français que tout va bien, que les choses vont continuer ainsi, que notre système tiendra, que la dette, on s'en occupera plus tard. Moi, je dis l'inverse. Voilà l'effort, c'est vrai. Mais voilà aussi la récompense. On taille 200 milliards dans la dépense. On rend 100 milliards aux Français et on désendette en même temps. Et la note souveraine remonte à AA+, soit 8 à 12 milliards d'économies par an, rien que sur la charge d'intérêt. C'est pas de la démagogie, Apolline. C'est de la comptabilité.
Mais si on supprime tous ces postes, mais si on supprime tous ces ministères, est-ce que l'économie ne va pas devenir un univers d'une très grande brutalité?
Alors très bien. Regardons un pays qui l'a fait. Le Canada, dans les années 90, sous Jean Chrétien et Paul Martin, gouvernement libéral, pas du tout conservateur, a coupé la dépense de 20% en 4 ans. Le résultat, retour à l'équilibre, baisse des taux, 10 ans de croissance soutenue, aucun effondrement. La brutalité, c'est pas la réforme, c'est la dette qui explose, c'est les taux d'intérêt qui montent, c'est la note qui dégringole, et un beau matin, l'État qui ne peut plus payer ses fonctionnaires. Ça, c'est brutal. Et c'est précisément ce qui nous attend si on ne fait rien.
Merci Louis Sarkozy. Demain, à votre place, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une, eh bien, ce chiffre, combien de morts de la canicule? Premier bilan, 1000 morts avancés par le Santé publique France. La météo, attention, vous le verrez, la canicule pourrait revenir. Il est 7h56 sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.